une nouvelle dont on vous a parlé dans les dernières heures. Le pasteur Claude Guillot, en prison depuis 2022 après avoir été reconnu coupable d'avoir infligé des sévices physiques et psychologiques à 5 enfants, va rester détenu après le rejet de sa demande de libération conditionnelle. Puis la commission de libération conditionnelle du Canada a été assez claire, je vous dirais. Là, il y a bien des éléments qui font que le pasteur Claude Guillot ne pourra pas se retrouver en liberté, même partielle. Et pour en parler, je vous disais que d'habitude, on lui parlait de politique et que là, ben, on va complètement ailleurs. C'est Josh Sinoski qui est au bout du fil. Il a été une victime du pasteur Claude Guillot. Josh, comment ça va?
Ça va bien, Maxime.
Comment t'as accueilli cette nouvelle-là dans les dernières heures que Claude Guillot n'aurait pas accès à une liberté, même partielle?
Ben, j'étais vraiment soulagé. Je m'en attendais un peu parce que je connais l'individu. J'ai assisté aussi vendredi passé à l'audience de libération conditionnelle. Le gars est dans un monde parallèle. Aucun remords, aucun début de commencement de remise en question. Donc, je m'en attendais, mais il y a toujours cette attente-là, cette fébrilité-là. On se dit, est-ce que ça va virer de notre bord? Mais quand j'ai vu la décision, j'étais content de savoir que cet individu-là, qui est un danger pour la société, avec tout ce qu'il m'a fait vivre, avec tout ce qu'il a fait vivre à des dizaines de victimes depuis les années 80, sa place est dans une cellule, puis c'est là qu'il doit rester le plus longtemps possible.
Guillaume qui a dit, durant les audiences, je referais la même chose dans le contexte où j'étais dans ce temps-là. Fait que quand on parle d'un gars qui regrette pas, je pense que cette phrase-là est quand même assez claire. Toi, comment, en tant que victime, tu reçois ce genre de phrase-là? Ça doit te faire capoter.
Bien, je dirais, tu sais, moi, ça fait 11 ans que je suis sorti de là, fait que j'ai pu cheminer depuis. Je ne suis pas surpris, mais je reste quand même sidéré à chaque fois. Je veux dire, quand t'es rendu, je peux me permettre, un être humain normal qui est plus sous l'emprise d'un individu comme ça, t'entends ça, tu dis comment quelqu'un peut être aussi incapable d'introspection, surtout après les dommages qu'il a causés, les souffrances qu'il a fait vivre, le fait qu'il a été reconnu coupable de près de 20 chefs d'accusation criminelle, un jugement de 100 pages, condamné à 8 ans de prison. Je veux dire, c'est clair, net et précis objectivement que ce gars-là est un criminel. Alors, on dirait que j'arrive toujours pas à m'imaginer qu'un être humain puisse être aussi borné que ça, vivre autant dans un monde parallèle. Mais c'est ça, malheureusement, que ça fait l'endoctrinement religieux. Puis, quand quelqu'un descend tellement profond dans ses travers, qui arrive à un point où ce que il est même plus capable de se remettre en question. Puis, il y a aussi un aspect qui est quand même triste dans tout ça, puis que je veux toujours rappeler, c'est qu'il y a une partie de lui que je comprends pourquoi il dit ça, parce que Guillaume, là, c'est l'élève qui a dépassé le maître, dans le sens que la violence sur les enfants, il n'a pas inventé ça. Lui, il a appris ça chez les baptistes évangéliques au Québec. Et c'est ces gens-là qui lui ont montré à faire ça. Alors lui, aujourd'hui, comme il l'a dit à plusieurs reprises lors de l'audience, il dit, ben moi, j'ai rien inventé. Là. Il dit, moi, là, on était plein de pasteurs qui enseignaient ça, qui faisaient ça. Et là-dessus, il a raison. Il n'était pas le seul. Et aujourd'hui, ces organisations religieuses-là, qui d'ailleurs nous poursuivons au civil, qui s'en vont dire qu'elles sont coupables de rien, puis qu'elles sont victimes, puis blablabla, puis que Guillaume, c'est un... Autrement dit, qu'ils se distancient de Guillaume. Je serais à la place à Guillaume, je serais peut-être frustré moi aussi, parce que puis ces gens-là, là, c'est eux autres qui lui ont montré. Ces gens-là, c'était ses chums dans les années 80-90. Alors aujourd'hui, c'est bien convenient de s'en distancer, mais Guillaume, il n'a rien inventé. Là.
La commission de libération conditionnelle, j'ai l'impression que la population a souvent une vision négative de cette organisation-là en disant « voyons donc, qui libère telle personne ou telle personne, ça n'a pas de bon sens ». Parle-nous donc, Josh, du processus. Comment tu l'as vécu, toi, du moment où on a commencé à entendre parler de demande de libération pour Claude Guillot? Comment tu as vécu tout ce processus-là qui a mené finalement à la décision de la commission qui dit « Ouais, non, toi, tu vas rester en dedans. »
Bien, il y a quand même il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs. L'aspect positif, c'est que les victimes sont quand même bien accompagnées. Il faut qu'ils connaissent qu'il existe des services pour eux autres. Mais au niveau des services correctionnels fédéraux, il y a des services. La commission de libération, lorsque tu es inscrit, il y a de l'accompagnement qui se fait. Et les victimes peuvent s'inscrire et être informées de toute demande que fait un délinquant lorsqu'il est incarcéré, en lien avec la victime, évidemment. Et de qui appelle la victime, si le délinquant doit sortir pour un rendez-vous médical ou etc., on est informé. Fait que ça, cet aspect-là est intéressant. Fait que ça faisait déjà des mois qu'on le savait qu'il avait fait cette demande-là. Ça a été reporté, etc. Mais tu sais, on était mis au courant. On nous demandait si on voulait produire une déclaration. On était accompagné si on voulait se présenter lors de l'audience. Donc, je dirais, pour les victimes, dans ce cas-là, c'est quand même, on est quand même bien encadré, bien entouré. Et je dirais aussi qu'il y a aussi un certain limite où ce qu'on pense que les délinquants peuvent sortir un peu n'importe quand, comme que systématiquement un délinquant va sortir au sixième de sa peine, mais non, c'est pas le cas. Oui, on s'entendra qu'on n'a pas un système de justice qui est très, très sévère envers les criminels, mais bon, on changera pas ça du jour au lendemain. Cependant, la commission des libérations conditionnelles, c'est quand même très sévère. Et pour qu'un détenu puisse être libéré avant la fin de sa peine, il faut qu'il ait montré, autrement dit, qu'il montre patte blanche, qu'il démontre qu'il est repentant à 200%, qu'il suive tous les programmes, etc., etc. Donc, c'est pas n'importe qui peut libérer n'importe quand, et dans un cas comme Claude Guillot, qui veut rien savoir, ben, il y a bien de valeur pour lui, mais il est pas sorti de sitôt, là.
Puis justement, est-ce que tu as l'impression que Claude Guillot s'est un peu lui-même peinturé dans le coin avec sa fameuse citation, je la répète, là, je referais la même chose dans le contexte où j'étais dans ce temps-là, ou si il y a quand même d'autres éléments, exemple, ce que les victimes peuvent avoir à dire, ça peut-tu jouer aussi?
Ah ben absolument la pression médiatique aussi, la couverture médiatique. Pour vrai, on était moi et une autre victime étions présents, on a lu des déclarations, et pour vrai, je crois que nos déclarations ont pesé lourd dans la balance. Oui, et puis j'en profiterai pour dire aux gens qui sont dans des situations comme ça, c'est pas facile, je le sais. Ça a été vraiment difficile pour moi, cette audience-là. Cependant, ça peut vraiment avoir un impact, faire la différence entre si le détenu va rester en prison ou s'il va sortir. Donc oui, ça pèse. Et évidemment que dans le cas de Claude Guillot, on s'entend, c'est lunaire les choses qu'il a dites. Il a dit même pire que ça lors de l'audience. On dirait qu'il disait systématiquement tout ce qu'il fallait pas dire pour essayer de sortir de prison. Donc on est dans un cas de folie avancée. Voilà.
Est-ce que tu as craint, tu as un peu répondu au début, là, je pense que tu étais assez confiant que la commission des libérations conditionnelles allait prendre une décision qui ne serait pas à l'avantage de Claude Guillot, mais est-ce que tu as quand même eu des craintes à certains moments durant le processus de te demander « y vas-tu sortir? »
Ah ben absolument, parce que tant que la décision n'est pas rendue, on sait jamais de quel bord ça peut virer. Puis objectivement, je pensais que cet individu-là, c'était pas nécessairement le pire en termes de récidive. Or, il s'avère que psychologues et autres intervenants dans le milieu carcéral en jugent autrement. Et je comprends tout à fait pourquoi, parce que quand on est en présence d'un individu qui ne reconnaît aucun tort et qui dit qu'il referait la même chose, ben on se dit qu'une fois qu'on le met en liberté, il y a aucune raison pourquoi il ferait différemment. Donc, mais c'est ça. C'est que sur certains aspects, effectivement, j'avais une certaine crainte, mais je suis soulagé de voir que la commission a vu le Claude Guillot que je connais.
Mm-hmm. Est-ce que là, tu sais un peu à quoi t'attendre pour la suite des choses? Est-ce qu'on continue un peu l'accompagnement auprès des victimes, à savoir, ouais, ben là, dans tel nombre de mois, d'années, il va pouvoir refaire sa demande? Est-ce qu'il y a un accompagnement à ce niveau-là? Ou là, c'est juste comme, regarde, on va prendre la nouvelle, le genre de soupir de soulagement avec le fait qu'il va rester en dedans?
Ben, je te dirais que on va continuer à évidemment être informé de toute nouvelle demande de sa part. Là, maintenant qu'il a fait une demande de semi-liberté, qu'elle a été refusée, il ne peut pas faire de nouvelles demandes avant une autre année. Mm-hmm. Et là, s'il fait une nouvelle demande, ben là, on va être encore une fois informé, on va pouvoir intervenir si on le souhaite. Sa sentence se termine officiellement en décembre 2030. Il a une libération d'office en 2028, mais on s'entend, on n'est pas encore rendu là. Et on s'entend aussi que s'il continue dans cette voie-là à ne reconnaître aucune responsabilité, aucune culpabilité, et même à dire que c'est nous les victimes qui sommes les menteurs et les oppresseurs et dire que écoute, il est même allé jusqu'à dire d'une certaine façon que c'était un peu de notre faute les séquelles que ça avait dans nos vies parce qu'on avait trop résisté. Donc, on s'entend quelqu'un qui va dire des choses comme ça, il n'est pas sorti du tout.
Josh Sinoski, merci beaucoup.
Merci, Maxime.
Josh Sinoski, je vous rappelle, une des victimes du pasteur Claude Guillot qui avait fait une demande à la Commission des libérations conditionnelles pour retrouver une liberté. Et là, ben finalement, la commission qui a tranché qui aurait pour sa liberté, même pas partielle. Très intéressant d'entendre Josh. Et d'ailleurs, la remarque qui est rentrée par texto, là, mentionner que Josh a été très bon. Dans les prochaines minutes, on fait le tour de la campagne municipale à Québec. Puis oui, à Québec, mais en général, on va aussi parler des communications dans une campagne électorale au municipal avec Thierry Giasson. Il est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval, directeur de ce département-là également. Qu'est-ce qui qualifie une bonne campagne au niveau des communication. Il y a peut-être certains partis qui devraient écouter et prendre des notes, j'ai l'impression, fait qu'on jase de ça au retour de la pause. Et aussi, je vous fais entendre un extrait du Pit Stop de ce matin avec Denis Gravel. Denis qui a été vraiment excellent, là. Il nous a parlé du diagnostic de troubles du spectre de l'autisme d'un de ses gars. Vous voulez pas manquer ça dans quelques minutes. Le point de Max.